Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est bizarre, j'arrive, il y en a plein qui se sauvent. Le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose, peut-être qu'on parle d'une prédication. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous enseigner. Et il m'a vraiment mis à cœur de vous enseigner sur l'Esprit, le Saint-Esprit. Parce que on a souvent des... Moi-même, j'en ai fait partie de ces gens qui avions une image, une idée de fausse, je vous le dis tout de suite, du Saint-Esprit. J'imaginais par exemple au début que quand je me faisais baptiser, je recevais le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a montré des années plus tard que c'est absolument faux. C'est totalement faux. Et donc, j'ai vraiment eu à cœur de commencer peut-être une série de prédications qui va se terminer. Je crois que le Seigneur m'a vraiment parlé sur la plénitude de l'Esprit. Mais j'aimerais déjà poser les bases sur l'Esprit Saint. Qui est-il et que fait-il? On a souvent une image, on se dit, ben voilà, on est chrétien. Et si on lit bien la parole, on doit marcher selon l'Esprit. Est-ce que notre vie montre qu'on marche selon l'Esprit? Si on est chrétien et qu'on dit devant tout le monde, je suis chrétien, on a l'Esprit. Et le Seigneur m'a montré que si on déclare ces choses, notre vie doit déclarer la même chose. Parce que vous allez voir jusqu'où ça va lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que quelque part on ne doit pas mentir. Et il est impossible de mentir lorsqu'on a l'Esprit de Dieu. Parce que vous le verrez, on a Dieu lui-même en nous. Notre vie ne peut pas mentir. Alors si on prend le départ en acte 2, versets 2 à 4, tout le monde le connaît. Celui qui ne connaît pas ça, il ne connaît rien de la parole de Dieu. Le jour dans la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le jour de la Pentecôte, c'est le moment où les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est une promesse que Jésus avait faite avant sa mort. Et on peut lire ça dans les derniers chapitres de Jean. Jésus parlait à ses disciples des événements à venir. Il a expliqué sa mort, il a expliqué sa résurrection et il leur a expliqué ce qui leur arriverait. Il faut que je monte vers le Père pour que le Consolateur vienne. La mission de Jésus sur terre arrivait touchée à sa fin. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu n'allait pas enlever Jésus et puis ben voilà, maintenant vous débrouillez, vous avez vu l'exemple, débrouillez-vous. Non, je vais vous envoyer un consolateur. Si on s'arrête là, le consolateur c'est quelqu'un qui dit allez, ça va aller, ça va ceci, cela, ça. Mais l'Esprit de Dieu, c'est bien plus fort que ça. Puisque c'est la nature même de Dieu qu'on reçoit. Il fait partie de la Trinité. En Jean 14, Jésus donne de l'espérance à ses disciples. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité, C'est pour ça tout à l'heure que je vous dis, celui qui dit « je suis en Christ », il déclare qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Il déclare que sa vie est véritable. Et ça doit se voir. Vous lisez Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il ne sera pas en vous de temps en temps, mais il sera en vous continuellement. Alors ce qui est incroyable, c'est que apparemment les disciples n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris ce que Jésus expliquait. Parce que plus tard, il dit « Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc il fallait que Jésus monte vers le Père pour que la troisième personne de la Trinité vienne. Mais il ne vienne pas à côté de nous, mais il vienne en nous. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe a dit également ceci, dans le chapitre 11, verset 2. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Le même esprit qui a reposé sur Jésus repose sur nous aujourd'hui. C'est exactement le même. Il n'y a aucune différence. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, qu'on pourrait appeler les Actes du Saint-Esprit, on voit bien l'accomplissement de la promesse. Il a envoyé un consolateur. Et on voit ce qui s'est passé par la suite au chapitre 1. Juste avant de retourner au ciel, Jésus a parlé à ses disciples. Il leur a recommandé surtout ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Surtout ne vous éloignez pas de moi. Parce que je vous donnerai ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand même, il me semble qu'à ce point-là, les disciples ne sauraient pas exactement ce qui se passait, ne savaient pas exactement ce qui se passerait. C'est-à-dire, ils étaient incapables de voir ce que Jésus leur annonçait. Et bien sûr, après, on est arrivé au temps de la Pentecôte, où on a lu le texte tout à l'heure. Ils étaient tous réunis dans un même lieu. Des langues de feu se sont posées sur eux. Ils parlaient dans d'autres langues. Et on sait qu'après, l'Église a grandi. En seulement un jour, José l'a dit, 3000 âmes se sont ajoutées à l'Église en une journée. Et on lit ça en chapitre 2, verset 41. Et bien sûr, peu de temps après, acte 8, verset 1, l'Église a été persécutée. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et quand les disciples sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Ils annonçaient les oracles de l'Éternel. Et ceux qui se tournaient vers Dieu recevaient le Saint-Esprit. Alors le sujet de la prédication, c'est le Saint-Esprit. Qui est-il et que fait-il? Alors qui est le Saint-Esprit? Ça, c'est une grande question. Il y a beaucoup de gens qui disent, c'est une puissance, c'est une chose. Mais le Saint-Esprit, c'est une puissance, certes, et cette puissance nous pénètre. Et avec cette puissance, on a des pouvoirs. Et ces pouvoirs sont utilisés pour le bien, parce que c'est Dieu lui-même qu'on reçoit. Beaucoup croient que le Saint-Esprit est impersonnel, c'est quelque chose mis à part, que certains et certaines reçoivent. C'est anonyme et que peut-être on ne peut même pas s'en servir. Mais la Bible considère le Saint-Esprit totalement autrement. Le premier verset qu'on peut voir, c'est Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Est-ce qu'on peut attrister une chose? Est-ce que d'après vous, on peut attrister une chose? On attriste la personne qui est en nous. Et vous allez voir comment on peut l'attrister plus loin, jusque où ça peut aller. On peut regarder en chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, quand je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Est-ce qu'une chose peut rendre témoignage de Dieu? C'est pas possible. Elle ne peut pas compatir à votre état, à votre vie, à vos fardeaux. Seul Dieu compatit à votre état, à votre vie, à vos fardeaux. On peut tourner en chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Les mots qu'utilise Jean, conduire, parler, dire, entendre et annoncer, sont tous les actions d'une personne. Une chose ne peut pas le faire. Le dernier verset se trouve en Romains 8, verset 27. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La pensée parle ici de l'intelligence. Une chose ne peut pas penser. Elle ne peut pas penser. C'est bien Dieu qui est en nous. C'est bien de l'Esprit Saint qu'on parle ici. On ne parle de rien d'autre. On ne parle pas d'une puissance qui nous arriverait, qui nous donnerait des dons comme un magicien. Mais la puissance de Dieu. C'est une personne, c'est un être vivant. Alors Jean-Baptiste dit, bien sûr, lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Est-ce qu'on peut être baptisé ou comment on peut être baptisé dans ou avec une personne? Ou dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Comment on peut être abreuvé d'une personne? Vous voyez, il y a toujours des gens qui vont trouver ces explications, ces versets. Mais en fin de compte, ces versets parlent d'une certaine façon de la relation qu'a le chrétien avec Dieu, c'est-à-dire la profondeur de notre relation. Il parle de la communication, de la communion, de cette intimité avec Dieu. En fin de compte, ça prouve une chose, c'est que le chrétien est entré dans une nouvelle relation, celle directe avec son Père. C'est une des preuves qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Donc le témoignage de la Bible, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne produit des effets sur notre vie, sur notre comportement. Cette personne connaît notre cœur, connaît nos pensées. C'est une personne qui voyage avec nous partout. Elle va où nous, elle voit où nous allons. Elle voit ce que nous faisons. Elle voit ce que nous disons. Elle voit ce que nous regardons. Elle voit ce que nous écoutons. La question qu'on doit se poser ce matin, qu'est-ce que Dieu voit au travers de nos vies? C'est pas un espion. C'est pas un espion. Vous imaginez que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient en vous. Qu'est-ce qu'on montre à Dieu de nos vies? Qu'est-ce qu'on montre à Dieu? Qu'est-ce qu'on lui fait voir au travers de nos yeux? Qu'est-ce qu'on lui fait entendre au travers de nos lèvres? Qu'est-ce qu'on lui fait entendre au travers de nos cœurs, de nos pensées? Est-ce qu'on n'attriste pas le Saint-Esprit? Et ça, justement, ça doit nous encourager à marcher selon l'Esprit. Ça doit nous encourager à marcher et à vivre selon ce qui plaît à l'Esprit. Nous ne devons plus penser pour nous. Nous ne devons plus penser pour la religiosité. Nous ne devons plus vivre pour avoir une vie chrétienne, mais vivre pour l'Esprit qui est en nous et rien d'autre. Parce que c'est cet esprit, et ça, ne l'oubliez jamais. C'est cet esprit, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est cet esprit qui vous fait vivre et rien d'autre. C'est cet esprit. Donc je vous l'ai dit plusieurs fois, qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Il est Dieu. Ça peut sembler évident. Je vous apprends peut-être rien ce matin, mais est-ce qu'on en est convaincu, chacun? Est-ce qu'on en est convaincu que lorsqu'on reçoit l'Esprit dans nos vies, on reçoit Dieu lui-même? Si on en est convaincu, pourquoi on a ces compromissions? Pourquoi on mêle Dieu à des choses qui... avec lesquelles on ne devrait pas le mélanger? Nos activités, nos loisirs? Est-ce que lorsque Dieu regarde au travers de mes yeux, il lit sa parole? Parce que je suis en train de lire sa parole? Je suis en train de méditer sa parole? Ou alors est-ce qu'il voit la télé? Est-ce qu'il voit mes jeux? Est-ce qu'il voit autre chose, peut-être bien pire? J'en sais rien. Il y a une vérité qui est flagrante dans la parole de Dieu, c'est l'épisode d'Ananias et Saphira, qui nous montre bien que c'est Dieu qui est en nous. Alors le couple, vous connaissez l'histoire, le couple vend un champ, c'est de bonne grâce, ils veulent faire partie de la communauté, donc ils disent on va vendre ce champ, on va donner l'argent à la communauté. Seulement vous connaissez la suite. Ils ont donné qu'une partie de l'argent et ils ont gardé l'autre pour eux. Et là, on assiste à Pierre qui est absolument pas content. Pas du geste, que Ananias et Saphira ont fait aussi, peut-être, mais surtout le fait que ils ont menti à Dieu. Ils ont menti à l'Esprit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il était vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Deux fois, il lui dit. La première fois, il lui dit, tu mens, mais comment tu peux mentir au Saint-Esprit? La deuxième fois, il lui dit, mais tu as menti à Dieu. De façon évidente, Pierre est en train de mettre en parallèle, et pour lui, le Saint-Esprit et Dieu sont synonymes. Pour lui, le Saint-Esprit et Dieu sont exactement la même personne. Il y a un exemple également en 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6, qui dit « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » L'Esprit et Dieu ici sont encore synonymes. Et aussi ici, Paul parle de Jésus. Donc la Bible considère bien que le Saint-Esprit est divin, que le Saint-Esprit est Dieu. On peut voir également que l'Esprit Saint a des attributs, les mêmes attributs que Dieu. En Hébreux 9, 13, 14, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Un esprit éternel. Qui est éternel ? Sinon que Dieu lui-même. En psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Si on ne peut pas s'éloigner du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit est omniprésent, un des attributs de Dieu, partout, au même moment, et en tous. Il est omniscient. On peut le voir encore une fois en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. « L'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » C'est l'Esprit de Dieu qui est en l'homme, et Dieu connaît l'homme. Dieu nous connaît parfaitement. Quand on saisit que l'Esprit de Dieu est divin, est-ce que ça ne vous vient pas à l'idée, cette idée de crainte, cette idée de tremblement, cette idée de respect? C'est tous ces mots qui sont applicables au Saint-Esprit. Parce que c'est la nature même de Dieu. Et on a parfois, malheureusement, on a vite tendance à attribuer à l'Esprit nos propres idées. Dieu m'a dit. Dieu m'a montré. L'Esprit m'a dit. L'Esprit m'a montré. C'est vrai. Lorsqu'on est animé par l'Esprit. L'Esprit nous parle, l'Esprit nous guide. Mais est-ce qu'on a du respect pour cet Esprit? Est-ce qu'on se laisse conduire par l'Esprit? Lorsque l'Esprit parle, je puis vous assurer que vous obéissez. Parce que ça, vous le sentez sur votre cœur. Lorsque l'Esprit vous demande de faire des choses, il est impossible de résister. Parce que vous savez que ce que vous allez faire, c'est la vérité de Dieu qui va être en œuvre et rien d'autre. Lorsque vous avez quelque chose à faire, ou vous voulez faire quelque chose, mettez-vous devant le Seigneur et dites, juste cette petite prière, que ton esprit me révèle la vérité sur ce que j'ai à faire dans cette situation. Et vous verrez si l'esprit que vous avez en vous est celui de Dieu ou celui de votre moi. Parce que ce que vous allez faire, ça va être indéniable, ça va porter des fruits. Les fruits que Dieu aura mis dans la situation et rien d'autre. Un autre point, c'est que l'Esprit Saint, c'est un don. C'est vraiment un don. Et c'est là où je vais vraiment insister. Parce que beaucoup pensent que, voilà, je suis baptisé, je reçois l'Esprit. C'est faux. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Voilà la condition. Voilà la condition du vrai chrétien, la repentance. La repentance. Ça veut dire qu'on s'est mis devant le Seigneur. On a sorti tout ce qui était mauvais en nous, parce qu'il faut le sortir. Si on n'a pas cette repentance, Dieu ne viendra jamais. Et c'est là où on reconnaît les vrais chrétiens, ceux qui ont vraiment reçu l'Esprit, ceux qui ont accepté cette repentance. C'est pour ça que des fois, on prend une décision, on dit « oui, je vais me faire baptiser ». Et des fois, on est baptisé du Saint-Esprit des années après. Parce que on n'a jamais eu cette repentance. Parce qu'on a dit « oui, Seigneur, je te reconnais comme Sauveur et Seigneur, mais... » Et voilà, on déclare bien au micro, « ben voilà, aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. » Et on ne s'est jamais repenti. Il y en a plein qui pourraient témoigner ici dans cette salle qu'ils ont vécu cette repentance. Qu'ils ont vécu cette délivrance du passé. Parce que quand on se repent, même si l'accusateur vient, on sait dans notre cœur que l'on a Dieu. Et que rien ne prévaut sur Dieu. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui que je vous dise cela et rien d'autre. Si je vous disais autre chose, j'irais à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a demandé à ses disciples, parce que ses disciples suivaient Jésus. Ils se sont repentis de leurs péchés. Vous restez réunis, vous ne vous éloignez pas de moi. Ça voulait dire ça, restez unis. En moi. Et ils ont été baptisés. Comment pouvez-vous concevoir que Dieu vous donne son esprit en n'ayant pas réglé votre vie devant lui, en continuant une vie comme avant? Parce que quand vous recevez cet esprit, c'est votre vie complète qui est changée. Vous êtes réellement une nouvelle nature, puisque c'est la nature de Dieu qui vient en vous. Ça doit porter des fruits. Ça doit avoir des conséquences. Le José qu'on a connu hier n'est plus le José d'aujourd'hui, parce que c'est Dieu qui est en lui. C'est cet esprit qui le fait marcher. C'est cet esprit qui le fait réfléchir. C'est cet esprit qui le fait parler. C'est José n'existe plus. C'est Dieu qui vit en lui. Bien sûr, quand on parle d'un don, on ne parle pas d'un objet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la présence de Dieu. C'est vraiment la présence de Dieu qu'on reçoit dans nos vies. Et ça fait drôle. Ça fait vraiment drôle. Quand je dis drôle, ça fait bizarre, quoi. Parce qu'on a ce cœur, mais complètement dans la paix. Complètement dans la paix. Et lorsqu'on reçoit ce don, c'est plus nous qui œuvrons, mais c'est Dieu qui œuvre en nous. Et c'est Dieu qui nous envoie. Vous voyez la différence? On ne fait plus les choses pour Dieu, mais on fait les choses avec Dieu. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Et c'est là peut-être les points que je vais développer dans les prochaines prédications. Que fait l'Esprit Saint? Voilà, José, il a donné la réponse, la première chose qu'il va faire. Alors, donc, il y a 7 points. Il nous convainc. Il nous convainc du péché. Il nous renouvelle. Il nous remplit. Il nous parle. Il nous guide, il nous réconforte et il nous affirme comme chrétiens et soldats de Dieu. Chapitre 16, Jean 16, 8 à 11. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ici, Jean parle plutôt du monde et comment l'Esprit va agir. Et on peut voir ici comment ça nous touche chacun personnellement. Est-ce qu'on a été convaincu du péché dans nos vies ? Et comment l'Esprit nous convainc? C'est bien sûr par sa parole. Elle fait connaître Jésus aux gens qui sont perdus dans leur péché. Alors il y a 2 solutions. Soit ils acceptent, soit ils le rejettent. Pour ceux qui le rejettent, leur rejet montre 3 choses. La première chose, c'est qu'on ne croit pas, absolument pas en Jésus. Et ce fait-là est continu. C'est-à-dire qu'ils vont s'entêter à ne pas croire en Jésus. Jésus est une fable. Ils sont contents de leur propre idée. Tout ce que j'ai, c'est grâce à mes bras. S'il y avait un Dieu, ils sont bons, en fin de compte, à leurs propres yeux. Et ils n'arrivent absolument pas à juger ce qui est bon. Le rejet de l'Esprit, de la parole, c'est rejeter Dieu lui-même. Il rejette Dieu lui-même. Mais pour ceux, les chrétiens qui acceptent Jésus-Christ, l'Esprit touche leur cœur. Et c'est là où c'est important. C'est parce qu'ils deviennent à ce moment-là sensibles au péché. Ces personnes se rendent compte que sans la justice de Dieu, ils sont perdus. Ils ont besoin alors de se repentir. Ils ont besoin de clarifier leur situation devant Dieu. Ils ont besoin de comprendre que Dieu a demandé une punition pour leur péché. Et la punition, on la connaît. C'est Jésus-Christ sur la croix. Ces gens-là savent qu'ils méritaient un jugement. ils le savent dans leur profondeur. Je sais que mes péchés m'ont jugé devant Dieu. Et alors, touchés par le Saint-Esprit, ils ont compris que c'est Jésus qui a pris la place. À ce moment-là, leur vie n'est plus consacrée à eux-mêmes, mais leur vie est consacrée à Christ, dans la vérité du nom de Christ. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit vient. C'est à ce moment-là que l'Esprit change la nature. C'est à ce moment-là que l'Esprit devient leur solution. Et pas les bricolages de la religiosité. Parce que la parole devient pour eux essentielle. Jésus-Christ devient le phare dans leur vie. Et Dieu, c'est le pilote. Il conduit leur vie, quoi qu'il arrive. Et ils vont marcher selon l'Esprit. Parce que c'est le but de leur vie. Alors vous allez me dire, mais ça m'arrive encore de pécher. Et là où je vais dire, il faut faire très attention, c'est que même quand j'ai péché, est-ce que je suis encore sensible? Dieu nous connaît. Dieu sait très bien que je peux faire deux pas tomber, il sera là pour me relever. La seule question c'est, mais pourquoi je suis tombé? Ou alors quand il me relève, ben, je continue à marcher, puis je m'en fiche de ce qui vient de m'arriver. Est-ce que je suis sensible au péché? Est-ce que l'Esprit qui nous anime illumine notre cœur pour nous dire, mais attention, tu t'en vas sur un chemin qui n'est pas le mien? La deuxième, c'est est-ce que notre conscience est altérée? Est-ce qu'on est touché par ce qu'on fait au quotidien? Est-ce que je suis touché? Est-ce que je suis touché quand je déclare aux uns et aux autres que je suis chrétien et que ma vie ne montre pas que je suis chrétien? Est-ce que j'ai cette prise de conscience? Quand je parle de sensibilité, elle est là, la sensibilité. Est-ce que j'ai le droit de mêler l'Esprit de Dieu qui est en moi à ces choses? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que faire les anciennes choses nous tracasse? Genre jurer, dire des choses abominables? Ou est-ce que je me mets vraiment devant le Seigneur et dis, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. L'Esprit de Dieu peut vous mettre le doigt là où il y a encore des choses à changer. Le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais quand je reçois ce doigt qui pointe sur la chose? Est-ce que j'obéis? Ou est-ce que je dis... Il y a la grâce. Il y a aussi Satan qui vient et qui nous accuse. Et des fois, on peut se retrouver dans un état de panique parce qu'on se croit, enfin, on ne voit pas qu'on est ceci, on ne voit pas qu'on est cela. Mais est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu va vraiment faire ça dans ta vie? Es-tu sauvé? En fin de compte, Satan met en place une chaîne de fausse culpabilité qui fait que ben on est désespéré. Et puis on dit, après tout. Mais est-ce qu'on a conscience qu'en Jésus-Christ, on a déjà été pardonné? Et là, le malin n'a pas le droit de nous accuser. Vous avez des gens qui ne vont jamais se repentir parce qu'ils pensent que C'est pas possible. Parce qu'on a été trop loin. Parce que je suis indigne devant Dieu. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question que pourquoi Dieu a donné Jésus-Christ s'il pensait que vous étiez plus bas que terre? S'il pensait que ma vie était sale, pourquoi a-t-il donné Jésus-Christ? Pourquoi a-t-il donné le sang de Jésus-Christ? C'est pour être lavé, chacun. Et quand vous prenez une douche, lundi, en 2017, vous n'attendez quand même pas lundi, en 2018, pour reprendre une douche. Ben c'est ça, en fin de compte. C'est revenir sans arrêt devant le Seigneur. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, l'Esprit qui est en nous est là pour nous calmer, pour nous rassurer. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de tactique. C'est simplement être honnête avec le Seigneur. Se mettre devant lui, dire « Je t'ai pas tout dit. Je me bats avec ceci, je me bats avec cela. Je me bats avec mon passé. Je me bats avec le poids d'une chose que j'ai faite. » Mais le Seigneur te dit, t'as pas à te battre, puisque tu as quelqu'un qui a combattu pour toi. Il a donné sa vie. Et moi, je veux te donner mon esprit. Et c'est ce qu'il veut faire ce matin. On peut se tromper par rapport à son péché. On peut se croire haut alors qu'on est bas. On peut se croire bas alors qu'on est haut. Dieu s'en fiche royalement. Je vous dis, il s'en fiche royalement. La seule chose que Dieu voit, c'est la sincérité de notre cœur. Comment on se trouve devant lui? L'intérêt de Dieu, c'est pas qu'on vive avec la culpabilité. L'intérêt de Dieu, c'est que chacun, nous soyons remplis de son esprit. Chacun rempli de son esprit. Et je vous assure que si vous n'avez jamais connu le baptême de l'esprit, si du jour au lendemain vous le connaissez, vous n'aurez même pas besoin de dire aux gens « J'étais baptisé du Saint-Esprit ». Vous n'aurez pas besoin de le dire. Parce que les gens vont vous le dire. Vous avez vos voisins qui vont vous le dire. Vous avez vos frères et sœurs de l'Église qui vont vous le dire. Ils vont dire « Je ne te reconnais pas. J'aimerais bien être comme toi. J'aimerais avoir ton calme. J'aimerais avoir ta joie. J'aimerais avoir ta patience. Mais comment tu fais pour ne pas te mettre en colère ?» Votre réponse va être simple. C'est pas moi, c'est Dieu. Parce que de nous-mêmes, on est incapable de changer comme ça. Le message que je veux vous laisser ce matin, c'est un message d'espérance et d'espoir. Si vous savez dans votre cœur que vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, il faut simplement vous faire un moment de silence, là, maintenant, et demander au Seigneur de vous parler. Et quand je dis au Seigneur, c'est à l'Esprit. L'Esprit parle en moi. Votre prière, est-ce que Seigneur, remplis-moi de ton esprit? Est-ce que c'est votre prière? Votre prière, c'est pas seulement dire Seigneur, rends-moi saint, Seigneur, vous m'assurez. Parce que lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez tout le reste. C'est cet esprit qui vous rend saint. C'est cet esprit qui va vous faire marcher selon Dieu. Et vous serez une nouvelle nature. en Jésus-Christ. Parce que vous marcherez selon les plans de Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu es là. Seigneur, et tu nous as donné cette espérance magnifique en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce consolateur que tu as donné et que tu veux distribuer ce matin. Seigneur, le chrétien doit marcher selon l'Esprit, selon ton Esprit. Seigneur, tu veux donner et donner, Seigneur, ce matin. Seigneur, je prie que ton Esprit puisse abreuver, que ton Esprit puisse remplir chacun ce qui le demande, Seigneur. Seigneur, que les vies soient réglées ce matin devant toi. Seigneur, que tu puisses remplir. Que ceux qui ne connaissent pas puissent faire cette expérience magnifique de la lumière qui entre dans les ténèbres. Cette impression de légèreté, cette impression de paix. Seigneur, tu ne juges pas. Tu ne condamnes pas. Tu attends que nous puissions nous ouvrir à toi. Tu attends que l'œuvre de l'Esprit se fasse en nous, afin que nous avancions vers le but que tu as fixé pour chacun d'entre nous. Seigneur, la présence de l'Esprit nous arme pour le combat, parce qu'ainsi nous devenons tes soldats. De cette armée du ciel, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'encore ce matin, tu veux parler, tu veux sauver, tu veux remplir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.